L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Dans le cadre du projet de loi de finances 2025, 5 milliards d'euros d'économies seront demandés aux collectivités. En conséquence, Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire, a choisi de faire des coupes drastiques dans le budget de la région. Cette coupe budgétaire concerne notamment la commission liée à la vie associative, à la culture, au sport, au bénévolat, à la solidarité et à l'égalité hommes-femmes. Face à cette décision, de nombreuses associations et des élus de gauche se soulèvent. En réponse, le groupe démocrate et progressiste appelle à faire preuve de responsabilité. Et on en parle avec notre invité, le conseiller régional des Pays de la Loire, François de Rugy, également ancien ministre de la Transition écologique et solidaire pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. François de Rugy, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes favorable à cette décision de Christelle Morançais, vous êtes l'un des signataires d'un communiqué adressé à ses contestataires, vous appelez à faire preuve de responsabilité dans l'effort budgétaire demandé à la région, c'est-à-dire.
Alors nous sommes d'accord avec les orientations exprimées par la présidente de région, lors d'ailleurs de la session du conseil régional qui s'est tenue en octobre et qui débattait des orientations budgétaires. L'idée de rechercher des économies. Le montant a été évalué à 100 millions d'euros pour pouvoir à la fois absorber les prélèvements exceptionnels que l'État a prévus, mais aussi les baisses de recettes et d'avoir une petite marge de sécurité pour les années qui viennent.
Michel Barnier n'avait demandé que 40 millions.
Le projet de loi de finances présenté par Michel Barnier, dont on ne sait toujours pas s'il sera adopté, on ne sait même pas d'ailleurs si le gouvernement Barnier sera encore là dans quelques semaines, il a prévu cela. De toute façon, même s'il ne l'avait pas prévu, il faut être lucide, la situation financière de la France est très grave, le déficit budgétaire s'est creusé et la dette continue d'augmenter année après année. On doit être aujourd'hui à 3300 milliards de dettes cumulées pour la France. Je dis bien de dettes cumulées car c'est pas juste la dette de l'État, c'est la dette de l'État, de la protection sociale et aussi indirectement des collectivités locales, même si les collectivités locales sont moins endettées que l'État, parce que il y a une règle budgétaire qui prévoit qu'on doit présenter un budget en équilibre. Mais en fait, une partie des ressources des collectivités locales et une grande partie des ressources de la région, des régions en général, c'est le budget de l'État. Et donc, quand les recettes au niveau national baissent, ce qui est le cas aujourd'hui en France, parce que l'économie est moins dynamique, parce que les recettes de TVA sont moins importantes que par le passé, la région en a une partie. Elle subit donc cette baisse de recettes et cela se poursuivra sans aucun doute l'année prochaine et l'année d'après. Il est normal de rechercher à faire des efforts. Ou alors, ça veut dire qu'on voudrait augmenter les impôts sans limite. Et on a vu d'ailleurs...
Pardonnez-moi, pourquoi cette orientation particulière ? Pourquoi cette orientation particulière sur la culture, la vie associative, l'égalité hommes-femmes ? C'est pas anodin. Surtout que la baisse, elle est quand même de 73% sur cette commission.
Ne croyez pas que ça ne concernera que la culture, la vie associative, le sport ou l'égalité hommes-femmes.
Oui, mais une baisse de 73% sur cette commission, c'est énorme.
Les économies, quand on veut en faire, il faut les chercher partout. La région a un peu la même démarche. Maintenir le niveau d'investissement, il restera très supérieur à ce qu'il était il y a encore 5 ans, avant le Covid. Donc, de fait, on maintient un haut niveau d'investissement. On maintient notre capacité à exercer pleinement nos compétences propres que sont, par exemple, les transports régionaux ou les lycées ou le soutien à la formation professionnelle ou le soutien au développement économique, car ces compétences ne sont pas exercées par d'autres collectivités ni par l'État. Nous devons donc les assumer pleinement. C'est donc logique que les économies portent sur principalement sur les sujets sur lesquels la région intervient de façon optionnelle. Ce n'est pas la compétence de la région de subventionner tout un tas de festivals ou autres.
Depuis la loi NOTRe de 2015, quand même, ça fait partie de ces compétences.
C'est la compétence des économies aujourd'hui.
Mais depuis la loi NOTRe de 2015, il y a quand même la compétence partagée qui fait que la région a aussi cette responsabilité-là de financer la culture, la vie associative.
Alors, vous savez, j'étais député en 2015 et nous avons eu de nombreux débats à l'Assemblée nationale. Au départ, l'intention du gouvernement de François Hollande, c'était justement d'aller vers des compétences propres à chaque collectivité et d'éviter les financements croisés, d'éviter le fait que toutes les collectivités s'occupent de tout. Alors, le débat parlementaire a amené finalement à maintenir beaucoup de financements croisés. Je pensais déjà à l'époque que c'était une erreur. Je le pense encore aujourd'hui, car je ne crois pas qu'on s'occupe mieux de telle ou telle politique en faisant en sorte que toutes les collectivités s'en occupent un peu.
Mais alors, selon vous, ça devrait dépendre de quelle collectivité alors ?
Eh bien, très clairement, par exemple, les bibliothèques, c'est une compétence municipale. Personne ne s'en plaint qu'il n'y ait que les municipalités qui s'occupent de la lecture. Il y a des musées qui sont d'ordre municipaux, il y a même des musées départementaux. En Loire-Atlantique, par exemple, vous avez le département qui a rénové le musée d'Aubray. Vous savez, il s'en serait bien passé parce que c'était un très gros investissement et normalement, ça n'est pas dans les compétences spécifiques des départements. Mais comme c'est un héritage ancien, il continue à le porter. La région des Pays de la Loire porte depuis toujours, depuis Jacques Auxiette, l'abbaye de Fontevraud. Elle va continuer à le faire, mais elle va quand même faire un peu d'économie sur le budget de l'abbaye de Fontevraud, car nous recherchons des économies dans tous les domaines. D'ailleurs, si nous pouvons faire des économies sur le budget transport parce qu'il y aurait ici ou là des lignes peu fréquentées ou autres, bien sûr qu'il faudra le faire également. C'est une question d'efficacité de la dépense publique.
Mais il y a quand même des associations culturelles, des associations même dans le domaine, par exemple, de l'égalité homme-femme, qui dépendent en partie des financements de la région. Si ces financements sont coupés, comme certaines annonces sont déjà en train de tomber, est-ce que ça va être alors au rôle des départements ou des municipalités de combler cet écart, sachant que les départements aussi, par ailleurs, seront concernés par des coupes budgétaires?
Ce que nous souhaitons, c'est que l'on puisse se mettre autour de la table. C'est ce que nous avons dit dans notre communiqué. Nous invitons les uns et les autres à se mettre autour de la table. Nous ne sommes pas à la région dans l'exécutif régional. Nous ne participons pas, nous n'avons pas le détail d'ailleurs des différentes mesures d'économie. Donc nous souhaitons que les uns et les autres se mettent autour de la table secteur par secteur, territoire par territoire, en disant voilà, est-ce qu'il y a moyen de regrouper des structures ? Je suis convaincu que dans bien des domaines, il y a beaucoup de structures, beaucoup d'associations qui souvent font un peu la même chose et qu'il y a sûrement moyen d'avoir une action plus efficace en faisant des regroupements. Ça s'est déjà fait par le passé dans d'autres domaines pour que la dépense publique soit mieux utilisée. Et ça, c'est le moment ou jamais de le faire puisqu'on a une contrainte budgétaire.
Ce que vous dites dans votre communiqué, en tout cas avec d'autres élus démocrates progressistes, c'est que l'idée, ce serait plutôt de privatiser certaines structures du secteur culturel et associatif. Pourquoi est-ce que c'est une solution pour vous, la privatisation ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait
s'engager par là ? On ne parle pas de privatisation. Et d'ailleurs, la plupart des structures culturelles ont un statut de droit privé. C'est des associations, voire des structures parfois commerciales qui organisent des manifestations culturelles, sportives. Donc non, c'est pas ça le sujet. On propose pas de privatiser l'Orchestre national des Pays de la Loire ou en gênant Opéra, qui sont des structures publiques. Mais en revanche,
Chercher des financements privés, en tout cas.
Oui, parce que ça, c'est normal. Alors, certaines structures le font déjà depuis longtemps. D'ailleurs, ont des sponsors privés et ça permet évidemment d'alléger les subventions ou le prix payé par ceux qui fréquentent tel ou tel concert ou tel théâtre ou tel festival.
Mais est-ce que c'est pas dangereux de dépendre uniquement de financement privé ?
Et ne dépendront jamais uniquement de financement privé. En revanche,
C'est la question qui se pose, est-ce que les coupes budgétaires à l'échelle régionale vont avoir un même impact à l'échelle départementale, à l'échelle municipale ? Est-ce que des coupes budgétaires sont à prévoir en fait à toutes les échelles ? Et dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'il faut chercher des fonds privés parce qu'il n'y aura plus que comme ça que les associations pourront fonctionner ?
Il faut sans doute faire déjà un inventaire de toutes les structures, de toutes les manifestations diverses et variées qui ont quand même se sont multipliées ces dernières années. Alors, on peut y voir quelque chose de positif comme une vitalité culturelle, mais on peut aussi se poser la question au bout d'un moment s'il y a vraiment la place pour autant de festivals, autant de rencontres culturelles, autant de lieux, autant de structures. Chaque commune quasiment veut avoir sa salle de spectacle et du coup veut avoir une programmation, du coup veut avoir des manifestations culturelles. Est-ce que la fréquentation est au rendez-vous ?
Donc la pluralité,
la culture, on ne la fait pas que pour le plaisir de la création culturelle, on l'a fait pour qu'elle rencontre un public. Tout ça, c'est le moment ou jamais de le regarder, et puis ensuite de faire évoluer, et ça permettra.
Oui, mais quand on voit que même la scène nationale des quinconces se voit privée de ses coupes budgétaires, on peut pas dire quand même que c'est seulement des petits festivals qui accueillent 10 personnes par an qui sont concernés.
Oui, mais si c'est une scène nationale, comme son nom l'indique, ça veut dire que c'est une responsabilité de l'État que d'en assurer le financement. Il n'est pas normal que chacun contribue un peu en plus de ceux qui en sont responsables. Parce qu'à ce moment-là, il y a les collectivités locales se dispersent, multiplient les dépenses annexes, mais mises bout à bout, ça commence à faire des sommes assez importantes au bout d'un certain temps qui ne sont plus dans les compétences propres de la région, si je prends l'exemple.
Oui,
de la
mais
région,
on en revient aux compétences partagées. On en revient aux compétences partagées à la loi NOTRe. Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.
Oui, bah, il n'est pas sain. Moi, je le disais déjà en tant que député en 2015. Je le redis aujourd'hui en tant que conseiller régional en 2024. Il n'est pas sain que tout le monde s'occupe de tout et que tout le monde se disperse surtout. Pourquoi ?
Parce que ça, c'est votre avis, mais la loi est faite de telle sorte que les compétences
sont
partagées.
Non, la loi, elle n'oblige pas. La loi, elle permet. Non, attendez, j'ai suivi de près tous les débats parlementaires sur les compétences des collectivités locales de 2007 à 2022. Donc, je sais ce qui a été débattu à l'époque. Je sais quelle était l'intention et des gouvernements et des législateurs dont j'ai fait partie. Et je sais ce qui a été voté in fine. Et à l'époque, ce qui a été décidé, ça a été de maintenir la possibilité pour des collectivités dont ce n'est pas la compétence d'aller quand même abonder financièrement. À un moment donné, c'est pas parce que c'est la possibilité que c'est l'obligation. D'ailleurs, la région continuera à financer des politiques culturelles. Hein, il faut pas non plus laisser dire que la région va totalement supprimer toute intervention en matière de culture, de sport, de vie associative ou que sais-je encore. Ça, c'est ceux qui tiennent des discours catastrophistes et caricaturaux, mais c'est pas la réalité. En revanche, il est normal que dans des périodes plus difficiles, on se recentre sur les compétences propres que personne d'autre n'exerce. Les transports régionaux, vous savez, les TER, les trains express régionaux, personne d'autre ne les finance que la région, pas même l'État. Si on ne les finance pas, eh bien, il n'y en a pas. Les départements ont des compétences propres très lourdes aussi dans le domaine social. Eh bien, je peux vous dire, pour avoir rencontré récemment deux présidents de département de la région, que eux aussi, et de couleurs politiques différentes, ils envisagent de se recentrer sur leurs compétences propres.
Alors, on va finir peut-être sur un exemple concret. Les radios associatives ligériennes étaient déjà menacées par le projet de budget du ministère de la Culture qui prévoyait une baisse de 30% du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Le ministère de la Culture est cependant revenu sur sa décision suite à l'interpellation des députés et des organisations professionnelles. Alors, est-ce que la décision de Christelle Morançais de supprimer les financements des radios associatives de la région ne va pas à l'encontre du soutien que les parlementaires ont apporté aux radios locales ?
Oui, mais est-ce que dans le domaine des radios, il n'y a pas eu aussi un phénomène d'éparpillement depuis des années entre les radios associatives, les radios privées, les radios publiques, les antennes des uns et des autres, sans qu'on sache vraiment d'ailleurs toujours quelle est l'audience réelle.
Ça assure le pluralisme, oui. Ça assure le débat démocratique, c'est pas important ça.
Jusqu'à un certain point, c'est pas...
Mais c'est à qui d'en décider ça alors ?
À l'infini, c'est aux responsables politiques.
En tout cas, pour
les responsables politiques qui sont élus par les Français, qui vont ensuite décider de où l'argent des Français, car à la fin.
Mais c'est aux responsables politiques seuls, alors. C'est aux responsables politiques seuls d'en décider.
Ah, mais si une radio s'autofinance, elle va auprès de l'ARCOM pour avoir une fréquence et elle vit en toute liberté. Et ça, en France, nous sommes très attachés et c'est une réalité à la liberté médiatique. Et d'ailleurs, il y a largement le choix, question diversité, on a ce qu'il faut en France. En revanche, quand il y a un financement public, évidemment, c'est aux collectivités ou à l'État de considérer quel va être le niveau de financement. Est-ce qu'on doit financer à l'infini les spectacles, les radios associatives, les manifestations sportives, et ainsi de suite ? Moi, je crois qu'il est quand même normal qu'on fixe des limites, surtout quand la situation budgétaire devient beaucoup plus difficile.
Bon, en tout cas, pour Radio Alpa, la radio sur laquelle nous sommes, la suppression de l'enveloppe régionale aux radios représente 7% du budget. C'est 12 000 euros de moins pour le financement des salaires. On en vient alors à la question des emplois. Et Radio Alpa n'est pas la seule à être concernée. Les emplois et la suppression d'emplois, ça va être une conséquence directe de ces coupes budgétaires. Est-ce qu'on peut se contenter de dire à des gens dont l'emploi est menacé peut-être très prochainement, puisque les coupes budgétaires auront lieu dès janvier 2025, est-ce qu'on peut se contenter de leur dire qu'il faut prendre ses responsabilités ?
D'abord, je ne sais pas si du coup vous êtes juge et partie, en quelque sorte, dans ce débat, si vous faites en sorte que les uns et les autres puissent exprimer leur point de vue, ou si vous militez pour un point de vue contre un autre, bon, ça c'est votre liberté éditoriale, mais enfin c'est quand même une question que les auditeurs peuvent se poser légitimement. Et par ailleurs, à 7%, bon, est-ce que c'est impossible de faire 7% d'économie dans votre budget ? Il y a énormément de structures associatives, évidemment des entreprises, des structures publiques, qui cherchent sans cesse à réajuster leur budget en fonction de leurs recettes. Parfois à la hausse, quand les recettes, tant mieux, sont à la hausse. Parfois à la baisse, quand les recettes sont à la baisse. Et je pense que vous rencontrez comme moi tous les jours des entreprises, par exemple dans le secteur du bâtiment, dont le chiffre d'affaires est à la baisse. Bon, ben parce que le secteur du bâtiment est au plus bas actuellement, eh bien de fait, elles ajustent aussi leurs frais, leur masse salariale, leurs frais généraux, leurs charges fixes à la baisse. C'est la vie économique et sociale que nous connaissons toutes et tous à un moment donné dans notre vie personnelle, professionnelle ou dans nos engagements.
Je vous remercie François de Rugy, conseiller régional des Pays de la Loire et membre du groupe démocrate progressiste. À bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup.
Merci.